rien d'abord, car il a vu du chlore les voler pour se protéger contre la chaleur. Sa première impression fut seulement de se sentir serré à la gorge par la violente odeur d'alcool qui emplissait la pièce. Il semblait que chaque meuble suât cette odeur. La maison entière en était imprégnée. Puis, comme ses yeux s'accoutumaient à la demi-obscurité, elle finit par apercevoir l'oncle. Il se trouvait assis près de la table, sur laquelle était un verre et une bouteille de 3-6 complètement vide. Tassé au fond de sa chaise, il dormait profondément, ivre mort. Cette vue la rendit à sa colère et à son mépris. « Voyons, Macquart, est-ce déraisonnable et ignoble de se mettre dans un état pareil? Réveillez-vous donc, c'est honteux !» Son sommeil était si profond qu'on n'entendait même pas son souffle. Vainement, elle haussa la voix, tapa violemment des mains. « Macquart, Macquart, Macquart! Ah, ouich, vous êtes dégoûtant, mon cher !» Et elle l'abandonna. Elle ne se gêna plus, marcha librement, bouscula les objets. Au sortir de l'asile, par la route poussiéreuse, une soif ardente l'avait prise. Ses gants la gênaient, elle les retira, les mit sur un coin de la table. Puis, elle eut la chance de trouver la cruche. Elle lava un verre qu'elle emplit ensuite jusqu'au bord et qu'elle s'apprêtait à vider, lorsqu'un extraordinaire spectacle la remua à un tel point qu'elle le posa près de ses gants sans boire. Elle voyait, de plus en plus clair dans la pièce, que de minces filets de soleil éclairaient à travers les fentes des vieux volets disjoints. Nettement, elle apercevait l'oncle, toujours proprement vêtu de drap bleu, coiffé de l'éternelle casquette de fourrure qu'il portait d'un bout de l'année à l'autre. Il avait engraissé depuis 5 ou 6 ans. Il faisait un véritable tas, débordant de plis de graisse. Et elle venait de remarquer qu'il avait dû s'endormir en fumant, car sa pipe, une courte pipe noire, était tombée sur ses genoux. Puis, elle resta immobile de stupeur. Le tabac enflammé s'était répandu. Le drap du pantalon avait pris feu. Et par le trou de l'étoffe, large déjà comme une pièce de 100 sous, on voyait la cuisse nue, une cuisse rouge, d'où sortait une petite flamme bleue. D'abord, Félicité crut que c'était du linge, le caleçon, la chemise qui brûlait. Mais le doute n'était pas permis. Elle voyait bien la chair à nu, et la petite flamme bleue s'en échappait, légère, dansante, telle qu'une flamme errante, à la surface d'un vase d'alcool enflammé. Elle n'était encore guère plus haute qu'une flamme de veilleuse, d'une douceur muette, si instable que le moindre frisson de l'air la déplaçait. Mais elle grandissait, s'élargissait rapidement, et la peau se fendait, et la graisse commençait à se fondre. Un cri involontaire jaillit de la gorge de Félicité. « Macquart ! Macquart ! » Il ne bougeait toujours pas. Son insensibilité devait être complète. L'ivresse l'avait jeté dans une sorte de coma, dans une paralysie absolue de la sensation. Car il vivait. On voyait un souffle lent et égal soulever sa poitrine. « Macquart ! Macquart ! » Maintenant, la graisse suintait par les gerçures de la peau, activant la flamme qui gagnait le ventre. Et Félicité comprit que l'oncle s'allumait là, comme une éponge imbibée d'eau-de-vie. Lui-même en était saturé depuis des ans, de la plus forte, de la plus inflammable. Il flamberait sans doute tout à l'heure, des pieds à la tête. Alors, elle cessa de vouloir le réveiller, puisqu'il dormait si bien. Pendant une grande minute, elle osa encore le contempler, effarée, peu à peu résolue. Ses mains, pourtant, s'étaient mises à trembler, d'un petit grelottement qu'elle ne pouvait contenir. Elle étouffait. Elle reprit à deux mains le verre d'eau que, d'un trait, elle vida. Et elle partait sur la pointe des pieds lorsqu'elle se rappela ses gants. Elle revint, crut les ramasser, tous les deux sur la table, d'un geste inquiet, à tâtons. Enfin, elle sortit. Elle referma la porte soigneusement, avec douceur, comme si elle avait craint de déranger quelqu'un. Quand elle se retrouva sur la terrasse, au gai soleil, dans l'air pur, en face de l'immense horizon baigné de ciel, elle eut un soupir de soulagement. La campagne était déserte, personne ne l'avait certainement vue ni entrer ni sortir. Il n'y avait toujours là que le loubet jaune, étalé, qui ne daigna même pas lever la tête. Et elle s'en alla de son petit pas pressé, avec le léger balancement de sa taille de jeune fille. 100 pas plus loin, bien qu'elle s'en défendît, une irrésistible force la fit se retourner et regarder une dernière fois la maison, si calme et si gaie, à mi-côte, sous cette fin d'un beau jour. Dans le train seulement, lorsqu'elle voulut se ganter, elle s'aperçut qu'un de ses gants manquait. Mais elle avait la certitude qu'il y avait du chemin de fer, comme elle montait en wagon. Elle se croyait très calme, et elle resta pourtant une main gantée et une main nue, ce qui ne pouvait être, chez elle, que l'effet d'une forte perturbation. Le lendemain, Pascal et Clotilde prirent le train de 3 heures pour se rendre aux Tulettes. La mère de Charles, la bourrelière, leur avait amené le petit, puisqu'il voulait bien se charger de le conduire à l'oncle, chez lequel il devait rester toute la semaine. De nouvelles disputes avaient troublé le ménage. Le mari refusait, décidément, de tolérer davantage chez lui cet enfant d'un autre, ce fils de prince, fainéant et imbécile. Comme c'était la grand-mère Rougon qui l'habillait, il était en effet, ce jour-là, tout vêtu encore de velours noir, soutaché d'une ganse d'or, tel qu'un jeune seigneur, un page d'autrefois, allant à la cour. Et pendant le quart d'heure que dura le voyage, dans le compartiment où ils étaient seuls, Clotilde s'amusa à lui enlever sa toque, pour lustrer ses admirables cheveux blonds, sa royale chevelure dont les boucles lui tombaient sur les épaules.